Le temps que j'ai fini de déballer mes biens tout neufs, une partie du liquide restant est allée dans mon portefeuille, le reste dans la doublure de ma nouvelle valise, j'étais affamé. Mais avant de descendre dîner, j'ai consulté l'annuaire du téléphone. Ce que j'y ai vu a fait couler mon cœur à pic. Mr. Pat Brotel ne s'était peut-être pas montré très accueillant, mais il m'avait dit vrai. Les Dunning pullulaient à Derry, et dans les quatre ou cinq hameaux environnants inclus dans l'agglomération. Il y en avait quasiment une page entière. Ça n'avait rien de surprenant. Dans les petites villes, certains noms semblent pousser comme des pissenlits sur une pelouse au mois de juin. Au cours de mes cinq dernières années d'enseignement au lycée de Lisbonne, je devais avoir eu une vingtaine de Starbird et de Lemke, frères et sœurs pour certains, cousins au premier, deuxième ou troisième degré pour la plupart. Ils se mariaient entre eux et en engendraient davantage. Avant de partir pour le passé, j'aurais dû prendre le temps d'appeler Harry Dunning pour lui demander le prénom de son père. Rien n'aurait été plus simple. J'y aurais sûrement pensé si je n'avais pas été aussi éberlué par ce que Hal m'avait montré et ce qu'il me demandait de faire. Mais bon, je me suis dit, ça devrait pas être si difficile que ça, si. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour dénicher une famille avec quatre enfants nommés Troy, Arthur, alias Touga, Ellen et Harry. Avec cette pensée pour me réconforter, je suis descendu à la salle à manger de l'hôtel où j'ai commandé le menu du littoral, lequel se composait de palourdes et d'un homard à peu près aussi gros qu'un moteur hors-bord. À la place du dessert, j'ai préféré aller prendre une bière au bar. Dans les romans policiers que je lisais, les barman étaient souvent d'excellentes sources d'informations. Évidemment, si celui qui travaillait derrière le zinc du townhouse ressemblait aux autres individus rencontrés jusque-là dans ce lugubre petit bourg, je n'irais pas bien loin. Il ne leur ressemblait pas. Le jeune homme qui délaissa sa corvée d'essuyage de verre pour venir me servir était trapu, avec une face de lune joviale sous une coupe en brosse. « Que puis-je vous servir, l'ami ?» Le mot de deux syllabes a résonné agréablement à mes oreilles. Et je lui ai rendu son sourire avec enthousiasme. « Une Miller Lite ?» Il a paru perplexe. « Jamais entendu parler. Mais j'ai de la High Life. » Bien sûr qu'il n'avait pas entendu parler de la Miller Lite. Elle n'avait pas encore été inventée. « Ce sera parfait. J'avais oublié que j'étais sur la côte est, ici. D'où êtes-vous ? » Il a ouvert une bouteille à l'aide d'un gros décapsuleur et posé un verre embué devant moi. « Wisconsin. » Mais je vais rester ici pendant quelque temps. Nous étions seuls, mais j'ai baissé la voix. C'était un procédé qui semblait inspirer confiance. Immobilier. Faut que je regarde un peu à droite et à gauche. Il hocha la tête avec respect et me devança pour me verser ma bière. Je vous souhaite bonne chance. Dieu sait qu'il y a une quantité de biens en vente dans le coin, et la plupart partent pour une bouchée de pain. Moi, je me tire d'ici, à la fin du mois. Je m'en vais dans un endroit un peu plus... ouvert. C'est vrai que les gens n'ont pas l'air très accueillants, ai-je observé. Mais je pensais que c'était juste leur côté Yankee. Nous sommes plus chaleureux dans le Wisconsin. Et pour vous le prouver, je vous offre une bière. Je ne bois jamais d'alcool en travaillant, mais je prendrai volontiers un coca. Allez-y. Merci beaucoup. Ah, c'est agréable d'avoir la compagnie d'un gentleman par une soirée calme. Je l'ai regardé se faire son coca en versant du sirop dans un verre, rajouter de l'eau de seltz et remuer. Il a bu une gorgée et fait claquer ses lèvres. Je les aime bien sucrées. À voir le petit ventre qu'il se tenait, ça ne m'étonnait pas. Ce truc comme quoi les Yankees sont froids, c'est des conneries, a-t-il repris. J'ai grandi à Fort Kent, et c'est la petite ville la plus sympathique que vous puissiez visiter. Là-bas, quand les touristes arrivent par le Boston Main, c'est tout juste si on les embrasse pas. J'ai fait mon école de barman là-haut, puis je suis descendu vers le sud chercher fortune. Ici, ça m'a paru être un bon endroit pour commencer, et le salaire n'est pas mauvais, mais... Il a regardé autour de lui, n'a vu personne, mais a quand même baissé encore la voix.
Vous voulez la vérité ?
Ça pue ici.
Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Toutes ces usines.
Oh, s'il n'y avait que ça ! Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez ?
J'ai fait ce qu'il me demandait. Il y avait un homme qui ressemblait à un voyageur de commerce dans un coin, en train de boire un whisky sour, mais c'était tout. Pas grand-chose, j'ai dit.
C'est comme ça tout le long de la semaine. Le salaire est bon parce qu'il n'y a pas de pourboire. Les bars à bière en centre-ville ne désemplissent pas. Et nous avons quelques clients les vendredis et samedis soirs, mais sinon ça s'arrête là. Les gens huppés se sifflent leur alcool à la maison, je suppose.
Il baissa encore la voix. Bientôt, il allait chuchoter.
On a eu un sale été ici, l'ami. Les gens du coin restent aussi muets que possible là-dessus. Même le journal la met en sourdine. Mais ça a vraiment été vilain. Des meurtres. Pas loin d'une dizaine. Des enfants. On en a retrouvé un dans les friches mortes tout récemment. Patrick Hockstetter, il s'appelait. En état de décomposition avancée.
Les friches mortes ?
Ah, c'est cette bande marécageuse qui coupe la ville par le milieu. Ah, vous l'avez probablement vu du ciel en arrivant par avion. On dirait un grand poignard vert pointé sur le centre-ville.
J'étais arrivé en voiture. Néanmoins, je savais de quoi il parlait. Les yeux du barman se sont agrandis.
C'est pas ce terrain qui vous intéresse, si ?
Je ne peux pas le dire. Si le bruit venait à courir, je devrais me trouver un autre boulot.
Ah, je comprends. Je comprends.
Il a bu la moitié de son coca, puis étouffait un rot avec le dos de sa main.
Mais j'espère que c'est ça. Il devrait la combler, cette saloperie de friche. C'est rien que de l'eau croupie et des moustiques. Ah, oh, vous rendriez service à cette ville. Adouciriez un peu ses mœurs.
On y a trouvé d'autres enfants ? J'ai demandé. La présence d'un tueur d'enfants pourrait expliquer en grande partie l'ombre que je sentais planer depuis mon arrivée dans la ville.
Pas que je sache. Mais les gens disent que c'est là qu'ont disparu quelques-uns des gosses. Parce que c'est là que se trouvent toutes les grandes stations de pompage des eaux usées. J'ai entendu dire qu'il y a un si grand réseau d'égouts sous Derry, aménagé en grande partie pendant la Grande Dépression, que personne ne sait où passent les canalisations.
Et vous savez comment sont les enfants ? Intrépides ? Il hocha la tête énergiquement.
Tout juste, Auguste.
Il y en a qui disent que c'est un vagabond qui a continué sa route depuis. D'autres, que c'était quelqu'un du pays déguisé en clown pour éviter d'être reconnu. La première victime, c'était l'année dernière, avant que j'arrive ici. On l'a retrouvée au carrefour de Witcham et Jackson, avec un bras carrément arraché. Denbrough, il s'appelait. George Denbrough. Pauvre petit gars.
Il m'a décoché un coup d'œil entendu.
Il était juste à côté d'une de ces bouches d'égout, celle qui se déverse dans les friches mortes. Bon Dieu !
Oui.
Mais vous parlez au passé.
J'allais lui expliquer ce que je voulais dire, mais apparemment ce gars-là avait écouté en cours d'anglais et aussi à l'école de barman.
On dirait que ça s'est arrêté. Touchons du bois.
Il a tambouriné des phalanges contre le zinc.
Peut-être que l'assassin s'est fait la malle et a changé de coin. Ou peut-être que cet enfant de salaud s'est zigouillé lui-même. Oh, parfois, ces types font ça. Ce serait une bonne chose. Mais c'était pas un meurtrier psychopathe déguisé en clown qui a tué le petit Corcoran.
Le clown qu'il a assassiné, c'était le propre père du gosse.
Si vous pouvez croire une chose pareille.
Ça ressemblait assez au motif de ma présence pour que ça ne me paraisse pas relever de la simple coïncidence. J'ai siroté une prudente gorgée de bière.
C'est vrai ? Comme je vous le dis, Dorcy Corcoran, c'était le nom du gosse. À peine 4 ans, et vous savez ce que son putain de père a fait ? Il l'a assommé avec une masse.
Une masse ? Ce type s'est servi d'une masse ? J'ai conservé mon expression d'intérêt poli, du moins j'espère l'avoir fait, mais je sentais la chair de poule me remonter le long des bras.
C'est affreux!
Ouais, et c'est pas le pire! Il s'est tu en regardant par-dessus mon épaule.
Je vous remets ça, monsieur!
Il parlait au commis voyageur.
Pas pour moi!
Déclina l'autre en lui tendant un billet de 1 $.
Je vais me coucher. Et demain, je décarre de cette ville de Guignol. J'espère qu'ils se souviennent comment commander du matériel à Waterville et à Augusta, parce que ici, c'est sûr, ils savent pas. Garde la monnaie, fils. Offre-toi une des Soto.
Il est sorti d'un pas lourd, la tête basse. Vous voyez? C'est l'exemple parfait de ce qu'on voit passer dans cette oasis. Le barman a regardé sortir tristement son client.
Un verre et au lit, et le lendemain, c'est salut la compagnie. Si ça continue, ce bled va devenir une ville fantôme.
Il s'est redressé en essayant de carrer les épaules, tâche impossible vu qu'elles étaient aussi rondes que lui.
Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Le 1er octobre, moi aussi, je me fais la malle. Je taille la route. Bonne chance, à la revoyure.
Le père de ce gosse, Dorsey, il n'a tué aucun des autres.
Non, il avait des alibis. Je crois que c'était le beau-père du gosse, maintenant que j'y pense. Dickie McLean. Johnny Kisson à la réception, c'est lui que vous avez dû voir à votre arrivée, m'a dit qu'il venait boire un verre ici de temps en temps jusqu'à ce qu'il se fasse virer pour avoir pris la mouche avec une hôtesse de l'air qu'il essayait de draguer et qu'il a envoyé balader. Après ça, je suppose qu'il est allé se rincer au Spoke ou au Bucket. Ils acceptent n'importe qui dans ces endroits-là. Vous voulez savoir le pire?
Je n'y tenais pas, mais je pensais que je devais. Alors j'ai fait oui de la tête.
Il y avait aussi un frère aîné dans cette famille tordue. Eddie. Il a disparu en juin dernier. Juste comme ça, parti sans laisser d'adresse, si vous voyez ce que je veux dire. Certains pensent qu'il s'est enfui pour échapper à McLean, mais n'importe qui avec un brin de bon sens se doute qu'il aurait réapparu à Portland, Castle Rock ou Portsmouth, si c'était le cas. Un gamin de 10 ans ne peut pas rester hors de vue longtemps. Croyez-moi, Eddie Corcoran s'est pris un coup de masse comme son petit frère. McLean ne l'avouera pas, c'est tout.
Il a souri brusquement. Un sourire lumineux qui l'a rendu presque beau.
Alors, je vous ai convaincu de laisser tomber l'immobilier à Derry, monsieur ?
Ce n'est pas à moi d'en décider, j'ai dit.
J'étais en pilote automatique à ce moment-là. N'avais-je pas lu ou entendu parler d'une série de meurtres d'enfants dans cette partie du Maine ? Ou peut-être vu à la télé ? Avec seulement un quart de mon cerveau allumé, pendant que le reste guettait le pas titubant de ma femme à problème, rentrant à la maison après une autre soirée entre filles bien arrosées. Il me semblait que oui. Mais la seule chose dont je me souvenais avec certitude, c'était qu'au milieu des années 80, Derry subirait une inondation qui détruirait la moitié de la ville.
Ah non, c'est pas vous?
Non, je suis juste l'intermédiaire.
Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Cette ville n'est plus aussi mauvaise qu'elle l'a été. En juillet dernier, les gens étaient sanglés plus serrés dans leur puritanisme que Doris Day dans sa ceinture de chasteté. Mais elle a encore du chemin à faire pour devenir bien. Moi, je suis un gars amical et j'aime les gens amicaux. Alors je m'en vais voir ailleurs si j'y suis.
Bonne chance à vous aussi, je lui ai dit.
Et j'ai lâché 2 $ sur le comptoir.
Oh là, monsieur, c'est trop.
Je paie toujours plus pour une bonne conversation.
En l'occurrence, le plus, c'était pour le visage amical. La conversation avait été déstabilisante.
Eh ben merci.
Rayonnant, il m'a tendu la main.
Je me suis pas présenté. Fred Toomey.
Enchanté, Fred.
George Amberson.
Sa poignée de main était ferme et pas talquée.
Vous voulez un conseil ?
Oui, bien sûr.
Pendant votre séjour ici,
évitez de parler aux enfants.
Après ce qui s'est passé l'été dernier, un inconnu qui adresse la parole à des gosses risque de recevoir une visite de la police si les gens le voient faire.
Ou de se prendre une raclée.
Ah, ils sont capables de ça ici.
Même sans déguisement de clown ?
Bah, c'est tout l'intérêt du déguisement, pas vrai ?
Son sourire avait disparu. Maintenant, il avait le visage blême et sinistre. Comme tout le monde à Derry, en d'autres termes.
Quand vous vous affublez d'un costume de clown et d'un nez rouge, personne ne peut deviner à quoi vous ressemblez à l'intérieur.
J'ai réfléchi à ça pendant que l'ascenseur à l'ancienne me hissait en grinçant jusqu'au troisième étage. C'était vrai. Et si le reste de ce que Fred Toomey m'avait dit était aussi vrai, serait-on surpris à Derry s'il prenait l'envie à un autre père de famille de trucider les siens à coups de marteau ? Probablement pas. Les gens diraient sans doute que c'était comme ça à Derry, et que Derry serait toujours Derry. Et ils auraient peut-être raison. Au moment où j'entrais dans ma chambre, une idée absolument horrible m'est venue. Supposons que je change juste assez les choses au cours des 7 prochaines semaines pour que son père tue Harry aussi, au lieu de le laisser boiteux et un peu demeuré.
Ça n'arrivera pas, je me suis dit. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Comme Hillary Clinton disait en 2008, je suis dans la course pour gagner. Sauf que, bien sûr, elle avait perdu.
Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner au Riverview Restaurant. La salle était déserte, mis à part moi et le voyageur de commerce de la veille. Il était plongé dans le quotidien local. Quand il l'a abandonné sur la table, je m'en suis emparé. Ce n'était pas la une consacrée à une escalade des hostilités dans les Philippines qui m'intéressait, même si je me suis brièvement demandé si Lee Oswald se trouvait dans les parages. Ce que je voulais voir, c'était les pages locales. En 2011, j'avais été un lecteur assidu du Sun Journal de Lewiston, et la dernière page de la section B était toujours consacrée aux échos des écoles. Dans cette rubrique, les fiers parents pouvaient voir imprimer le nom de leurs enfants si ceux-ci avaient gagné un prix, étaient partis en voyage scolaire ou avaient participé à un projet associatif de nettoyage d'un espace naturel. Si le Daily News de Derry possédait ce genre de rubrique, ce n'était pas impossible que j'y trouve cité un des enfants Dunning. Mais la dernière page du Daily News ne contenait que des notices nécrologiques. Je me suis reporté aux pages sportives qui m'ont tout appris sur le prochain grand match de football du week-end. Les Tigres de Derry contre les Béliers de Bangor. Troy Dunning avait 15 ans, selon le récit de son frère. À 15 ans, on peut facilement faire partie de l'équipe de football de son lycée, quoique probablement pas en position de titulaire. Je n'ai pas trouvé son nom, et j'ai eu beau lire de A à Z un article plus bref concernant l'équipe Benjamin de la ville, les Petits Tigres de Derry, je n'ai trouvé aucun Arthur Touga Dunning. J'ai réglé mon petit déjeuner et je suis retourné dans ma chambre, le journal emprunté sous le bras, en me disant que je faisais vraiment un détective minable. Après avoir compté tous les Dunning de l'annuaire, 96, autre chose m'avait frappé. J'avais été conditionné, pour ne pas dire handicapé, par une société où l'Internet était tellement omniprésent que j'en étais venu à le prendre pour acquis et à en dépendre complètement. Aurait-il été si difficile que ça de localiser la bonne famille Dunning en 2011 ? Entrer Touga Dunning et Derry dans mon moteur de recherche préféré aurait probablement suffi. Tapez ensuite « Entrer » et laissez Google, ce Big Brother du 21e siècle, faire le reste. Dans le Derry de 1958, les ordinateurs les plus perfectionnés avaient la taille de petits immeubles et le journal local n'était d'aucune aide. Que me restait-il ? Je me suis souvenu d'un prof de sociologie que j'avais eu à l'université, un vieux zig sarcastique qui avait coutume de dire « Quand tout le reste a échoué, laissez tomber, et aller à la bibliothèque. C'est ce que j'ai fait.